a été modifié dans l'histoire de l'Église. Le vrai titre de cette parabole, c'est la parabole des deux fils. Et avant de commencer, peut-être de prier, et puis nous allons lire le texte. Je vous propose de prendre vos Bibles, d'ailleurs, dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Et puis ensuite, je vous poserai les questions, et puis vous pourrez répondre, du coup, dans chacun de vos groupes. Merci Seigneur encore mon Dieu pour ta parole ce matin. Le Saint-Esprit encore travailler dans nos pensées, nos intelligences. Que cette parole, mon Dieu, ne puisse pas juste être une réflexion intellectuelle, mais qu'elle puisse descendre dans nos cœurs ce matin pour faire son effet. Un effet qui produit la vie, qui produit, mon Dieu, un changement de caractère et de comportement. Mon Dieu, viens faire grâce, mon Dieu. Donne-nous encore, Jésus, des cœurs simples, pour que nous puissions entendre et recevoir cette parole. Amen. Voilà, je vous propose de prendre vos Bibles, du coup dans Luc, j'ai pas mis le texte parce que le texte est long, mais prenez vos Bibles du coup dans Luc chapitre 15, et on va lire du coup à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Vous pourrez lire après dans chacun de vos groupes séparément, mais je vais faire une première lecture générale. Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Puis Jésus poursuivit, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Et sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quant à celui-ci, quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Amen. » Voilà, je vous laisse relire le texte, vous poser des questions entre vous si vous ne comprenez pas, et je vous pose du coup cette première question. Ces deux premières questions, pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole? À qui s'adresse-t-il? J'ai mis des références, comme ça vous pourrez regarder rapidement, mais vous pouvez vous trouver d'autres réponses ailleurs. Deuxième question, qu'est-ce que le fils cadet fait qui montre qu'il s'est éloigné de son père? Qu'est-ce qui montre qu'il décide de revenir? Avec Luc chapitre 15, verset 1 à 3, et Luc chapitre 11, verset 11 à 20. Est-ce que ça va? Allez, je vous laisse du coup 20 minutes, et puis on passe du coup aux deux prochaines questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Oui, Samuel.
J'ai une première question, c'est à partir du premier verset, le père qui accepte de partager son état de son vivant, alors que la culture juive interdit le partage de l'état de son vivant. Est-ce que là, ce n'est pas une irresponsabilité parentale du père qui pourrait résister à son fils?
Très bonne question, Samuel. Écoute, garde-la bien au chaud et on y répond tout à l'heure, si jamais on n'y répond pas. Est-ce que vous... Est-ce que vous voulez du papier? Ou est-ce que ça va? Tout le monde a ce qu'il faut sur les tables? Bon, super. C'est parti. Écoutez, je vous propose du coup de faire le point et de commencer du coup par la première question. Avant d'enchaîner du coup sur les deux dernières, donc un peu plus de réflexion les deux dernières. Donc la première question c'était pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole ? À qui s'adresse-t-il ? Allez, vous pouvez lever la main pour ceux qui veulent répondre. À qui s'adresse Jésus dans cette parabole ?
Alors nous avons répondu pour la première question, Jésus s'adresse à la foule. Non, c'est la deuxième question, ça. À qui s'adresse-t-il ? À la foule, aux pharisiens et aux gens de mauvaise vie. Et la première, pourquoi Jésus raconte-t-il cette parabole ? Jésus considère que chaque pécheur est très important. Tout est mis en œuvre pour retrouver un pécheur, un seul pécheur, qui se repent. Et pour ouvrir les yeux des pharisiens qui se considéraient justes, qui ne se voyaient pas perdus.
Ouais, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? En fait, c'est quoi l'histoire avec les pharisiens juste avant ? Si vous avez lu un peu juste avant, qu'est-ce qui se passe avec les pharisiens ? Parce que Jésus ne va pas les trouver comme ça.
Ouais. Ils sont venus critiquer Jésus parce qu'il allait avec des pécheurs.
Donc Jésus va vers des pécheurs et ça dérange les pharisiens, d'où la réaction de Jésus. D'ailleurs Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, c'est pas la seule parabole qu'il va faire. Il va leur faire trois réponses avec trois paraboles différentes. Donc et là c'est une des paraboles les plus directes, en fait c'est une des dernières. Mais avant il parle trois fois aux pharisiens pour relever quelque part quelque chose ici dans leur attitude. Donc le but de Jésus, c'est pas de raconter une histoire pour évangéliser les perdus, mais pour justifier sa propre conduite. Jésus ici veut expliquer pourquoi il mange avec des personnes dites de mauvaise vie et sur lesquelles les pharisiens sont choqués quelque part. Et il veut répondre du coup à l'accusation ici des pharisiens, pourquoi accueille-t-il les pécheurs ? Est-ce que ça va ? Du coup, la deuxième question, qu'est-ce que le fils cadet fait qui montre qu'il s'est éloigné de son père ?
Il a vendu sa part et il est parti ?
Le fils cadet ?
Le fils cadet, oui.
Ouais, alors il n'a pas vendu sa part. Oui ? Ouais, c'est ça. Il a pris sa part d'héritage, après il l'a vendue. Exactement. Ouais. Tout à fait. Mais c'est ça. Mais c'est des biens qui appartiennent en fait à son père, qu'il va vendre. Autre chose ?
C'est quand il part, donc il part avec tout l'héritage qu'il a dilapidé. Et il va partir dans un autre pays et il va plus refléter donc l'éducation, tout ce que lui avait appris son père.
Ouais, vas-y, Laïna. Il a quitté la maison, littéralement, donc physiquement, il a quitté. Et c'était intéressant ce qu'avaient dit les enfants, c'est qu'il a perdu littéralement son identité parce que son comportement ne reflétait plus tout ce que son père l'enseignait. Il est tombé plus bas dans tout ce qu'il n'aurait pas fait et touché dans la maison.
Pourquoi c'est une faute ce que fait le cadet ? Parce que quitter la maison, on peut tous quitter et revenir. Hein. Oui. Mais lui, il fait autre chose, lui, derrière.
Oui. Au fait, il est dans la désobéissance complète.
Par rapport au père, qu'est-ce que.
C'est parce qu'il demande l'héritage.
Ouais, exact.
Il demande l'héritage alors que son père est encore vivant. Jusqu'à preuve du contraire, il faut que les parents soient décédés pour toucher l'héritage. Donc, quelque part, il renie le père et il lui dit : moi, j'ai pas besoin de toi. Et donc, déjà à notre époque, c'est grave, mais à leur époque, c'était pire que grave, quoi.
Tout à fait, c'est ce que dit Thomas. En fait, le fait qu'ils quittent la maison, bon, on quitte tous la maison, ou un autre, hein. En tout cas, j'espère pour vous, si vous êtes là, on quitte. Le vrai problème, c'est qu'ils demandent sa part d'héritage. Et un héritage, on le demande quand ? Quand la personne... Est-ce que le père est décédé ? Ou est-ce que le texte dit qu'il souffre d'un cancer phase terminale ? Mais non, rien du tout. Et du coup, ici, qu'est-ce qui montre que le fils cadet s'est éloigné de son père ? C'est qu'en fait, il méprise son père. C'est un mépris du père. Le père est faible. Le père, exactement. On va y revenir. On va y revenir. En fait, ici, qu'est-ce que dans la culture en plus orientale du Moyen-Orient, là, le fait de demander la part d'héritage, c'est dire au père, je voudrais que tu sois mort. C'est explicitement vouloir sa mort, puisque du coup, on pense à l'après quand il ne sera pas là. Et là, du coup, la rupture, elle n'est pas seulement géographique ou morale, hein, puisque après, bien sûr, et c'est ce qui nous choque, il va voir les prostituées, il va mener une vie de débauche, mais c'est pas ça le point de départ. Le point de départ, c'est que déjà, dès le début, son cœur est mauvais, parce qu'il demande la part d'héritage. Je sais pas, bon, vous voyez avec vos parents, si vous avez vos parents qui sont vivants, demandez-leur votre part d'héritage dès maintenant. Pas une donation, hein, la part d'héritage. Hein. Vous allez voir la réaction qu'ils auront. Hein. Donc, en général, et en France, de toute façon, on peut pas. C'est que, du coup, la part d'héritage, c'est après. Ici, le fils cadet demande quelque chose qu'il ne doit pas avoir.
Non, je dis, c'est quand même un drôle de père. Hein. Là, je pense que le focus est peut-être sur le père aussi, et pas seulement sur les deux frères.
Et ça, c'est la question que je posais, alors, je pose après, du coup, par rapport au père, parce qu'on va revenir aussi sur le père. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Du coup, le fils cadet, du coup, il part ensuite dans un pays lointain, il va dilapider tout son héritage. Hein. Il lui reste plus rien, puisqu'il va devoir, du coup, travailler avec les porcs. Je vous rappelle le contexte, hein. Les porcs de l'époque, c'est un animal impur, c'est le travail le plus bas. Et il veut manger les haricots rouges, les caroubes, que les porcs mangent, parce qu'il a faim. On pourrait se dire, ce gars-là, il mérite ce qu'il a, quelque part.
C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que son père soignait mieux les serviteurs qu'il n'était soigné lui. Et donc il prend quand même conscience de sa faute.
Justement, c'est la question qui vient après, c'est qu'est-ce qui montre quelque part que comment il décide de revenir ? Quelle est la situation qui fait qu'il décide de revenir ?
Pardon.
Ouais, il vient demander pardon. Fred disait, il a plus rien. Et du coup, je vous pose la question. Alors là, je l'ai pas posé, mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? En général, on revient à Dieu quand on est au plus bas, quand tout va bien, quand on a demandé l'héritage du père et qu'on dilapide tout. En général, on se rend pas compte du coup qu'on a fait le mal. C'est quand on atteint le mur et qu'on se le prend en pleine face, en général, que l'orgueil humain fait que ce qui tombe et du coup on réfléchit. Et Dieu nous laisse ici la grâce de pouvoir ici nous remettre en question. Bon, il aurait pu prendre cette conscience bien avant. Pour lui, malheureusement, il a foncé dans son péché. Mais il a eu quand même ce moment de repentance, où le texte va dire qu'il va rentrer en lui-même. Et il va considérer, comme tu disais, du coup, comment son père traite les serviteurs. Il se dit pas, et il aurait pu se dire... Hein, en tout cas, moi, je me serais dit, mon père ne me pardonnera jamais. J'ai voulu sa mort, j'ai volé la moitié de l'héritage, qu'est-ce que je mérite de plus ? Quelque part, il est au fond du trou. Et il se dit, je vais aller voir mon père, peu importe ce qui se passe, ce sera moins pire que ce que je vis. Et en général, quand on retourne à Dieu, c'est un peu ça qui se passe. On se rend compte de notre propre misère et on se rend compte finalement qu'on a besoin du Seigneur. Est-ce que vous avez des questions ?
Pour répondre à la troisième question, le père court vers son fils et donc il fait abstraction de l'argent qui est parti, il court. En fait, c'est quelqu'un qui était sincèrement avec Dieu et qui a toujours gardé l'espoir de revoir son fils. Il a toujours gardé l'espoir, il attendait, oui, il sculptait.
Oui, tout à fait. Alors, on va passer un petit peu, parce que je crois que j'ai mis les réponses en plus. Donc voilà, question 1, c'était les destinataires, c'est les pharisiens. Pourquoi ? Parce qu'ils critiquent Jésus, parce qu'il accueille et mange avec les pécheurs. Et le but, ici, de Jésus, c'est de prendre la défense des perdus et de bousculer les bonnes consciences des religieux. Deuxième question, c'est le péché ici, c'est réclamer la part d'héritage. Le fils cadet, son péché, c'est pas d'être allé voir les prostituées. Ça, c'est la conséquence qui découle de cela. Mais le fond du problème, il est là dès le début. C'est le cœur. Il souhaite la mort du père. Il y a une rupture avant d'être morale, la débauche. elle est relationnelle, vouloir l'argent sans le père. Le père, quelque part, dans cette histoire-là, il n'est pas père. C'est un banquier que les fils utilisent pour son argent, pour ce qu'il a, pour ce que le père peut accorder. Mais frères et sœurs, est-ce que nous, des fois, on n'est pas comme ça? On appelle Dieu notre père, parce que le père, voilà, on va dire les choses, hein, c'est Dieu, c'est l'équivalent de Dieu dans cette histoire, et on ne se tourne pas vers Dieu uniquement pour nos propres intérêts. Et quand on n'a pas besoin de lui, on fait notre vie. Comme les deux fils, hein. Ils ont ce point commun, ces deux fils-là. C'est que c'est que par intérêt. Il n'y a pas de relation paternelle. Encore, je vois ça, ce n'est pas la relation que je veux avoir avec mon fils, Johan, hein, en tout cas. Il n'y a pas de relation père-fils ici. Pourtant, il est question d'un père et de ses deux fils. Et le déclic, du coup, c'est quand il va toucher le fond, chez les pauvres, où il se souvient ici, le fils cadet, de la bonté de son père. Oui.
Tu parles du déclic. Je dirais, c'est ce qu'on aimerait entendre dans les témoignages de ceux qui se font baptiser. Qu'ils aient touché le fond et qu'ils se souviennent de la bonté de la maison de Dieu. Voilà, je dirais ça.
Mais écoute, c'est une bonne remarque, Christophe, mais tu vas voir que cette parabole, elle ne parle pas à ceux qui viennent de se faire baptiser. Elle parle aux chrétiens que nous sommes, chrétiens depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans, et qui des fois vont oublier qu'on a mangé chez les porcs. Et Jésus, en fait, je vous rappelle, hein, il s'adresse aux pharisiens, aux chrétiens de nos églises, pas à ceux qui sont dehors, qui sont perdus. Cette parabole, mes frères et sœurs, elle s'adresse à nous, qui sommes là, et potentiellement qui pouvons avoir ce travers-là. Mais effectivement, tu as raison. Dans la vie de tout homme, Christophe, c'est en touchant le fond. Après, toucher le fond, il peut y avoir différentes possibilités. Chacun ne touche pas le fond de la même manière. Et il y a aussi des enfants de chrétiens, et heureusement, qui ne touchent pas le fond. Par contre, du coup, il y a une remise en question. Il y a une nouvelle naissance qui est là, qui peut être progressive ou un cheminement. Sur la troisième question, du coup, qu'est-ce que le père fait lorsque le fils revient? On arrive sur le père. Alice en a un petit peu parlé. Qu'est-ce que, du coup, le père fait lorsque le fils revient? Qu'est-ce que cela nous apprend sur lui? Qu'est-ce qu'on peut dire du père? Il se réjouit, il pardonne. Alice, elle a dit tout à l'heure que le père, il a l'air faible. Pourquoi il accepte que le fils... Bon, allez, moi, je me mets à la place du père. Par amour, mais moi, j'ai Johan, s'il grandit, il me demande un part d'héritage. Bon, j'ai pas grand-chose. Mais c'est la rousse qui lui attend. Je lui dis, attends, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, t'as perdu la tête. Moi, je vais pas lui dire, attends, on va aller à la banque, on va essayer de régler ça. Attends, c'est quoi cette histoire? Donc, je réagirai. Et dans le côté, plutôt, non. Pourtant, le père, s'il n'y a pas de réaction, le père, il laisse faire. Pourquoi? Est-ce que c'est un père qui est trop laxiste? Ouais, il laisse libre. Ouais, c'est ça. Ici, le père, il laisse libre le choix à chacun. C'est-à-dire que chacun, quelque part, est libre d'accepter finalement la relation de père ou pas. Ici, le fils nie la relation qu'il a avec son père et le père l'accepte. Il ne peut pas forcer l'amour. Un amour, ça ne se force pas. Soit le fils, du coup, accepte cet amour, soit il ne le vit pas. Du coup, il y a l'accueil. On voit que le père, qu'est-ce qu'il fait ensuite? On vient de le dire, il attend, il va courir et il embrasse. Il interrompt le discours de culpabilité. Ce qui est intéressant ici, c'est que le père, quand le fils revient, le père est aux aguets. Il n'est pas dans sa maison et il le voit arriver de loin. Il l'attend. Il attend son fils. Depuis combien de temps il attend, on ne sait pas. Le texte ne nous dit pas. Mais il savait qu'il allait revenir. Exactement, mais le père du coup est patient, puisque entre temps on n'a pas le délai d'attente. Il s'est passé du temps quand même, pour dilapider des biens, pour se retrouver dans la misère, pour travailler à côté. Et quand il revient, le père l'aperçoit de loin. Oui. Bah parce qu'il l'attend. Il l'attend. Quelqu'un qui n'attend pas, en tout cas... Ouais, ouais. Mais du coup, il y a ici, En tout cas, le texte s'y précise bien, que le père le voit arriver de loin, et du coup envoie ici un serviteur, et court à sa rencontre. Le père, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Quand le père voit arriver son fils, il pourrait demander des comptes. Il pourrait demander, il faut que tu te repentes, qu'est-ce qui se passe ? Et il l'embrasse. Le fils cadet, si vous relisez le texte, hein, il n'a même pas le temps de terminer son discours. Il n'a même pas le temps de terminer son discours, de s'expliquer que le père, il le rétablit immédiatement. Qu'est-ce qu'il fait ? Dans le texte, il est question, il lui donne une nouvelle robe, il lui donne un anneau. Et donc la robe, c'est la restauration de la dignité, l'anneau, c'est l'appartenance à la famille. C'est fort. Le fils cadet revient dans la famille. Il y a les sandales, statut de fils libre, et il y a le festin. La joie et la célébration. Le père, il coupe la culpabilité du fils. Ce que Dieu fait avec nous. Dieu n'attend pas que c'est lui qui vient à notre rencontre. Ici, Jésus présente le Père et le Dieu comment il est. Dieu n'attend pas sagement enfermé. C'est lui qui, quelque part, nous attend. Il attend de notre côté la démarche, le pas de foi. Et là, le fils cadet va l'avoir puisqu'il revient à la maison. Mais la maison, elle n'est pas fermée. Le fils cadet, il n'est pas obligé d'attendre 10 ans avant de rentrer. Le Père l'accueille et l'accueille avec joie. On découvre ici du coup un Dieu qui ne se contente pas de pardonner, comme des fois on peut le penser, Dieu pardonne, non, il restaure. Et il se réjouit, le Fils est restauré pleinement. À travers le foie, le veau gras, la robe, la parabole le précise, hein, robe, anneau, sandales, festin. Et cela, ce que ça nous apprend sur Dieu, c'est que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, ou que nous ayons payé notre dette pour nous accueillir, c'est la grâce. La grâce divine devance et submerge la repentance humaine.
Ça devait être très difficile pour le Fils de revenir, et on ne peut revenir chez le Père que justement si on est sincère et repentant.
Ouais.
Et c'est là où c'est important. L'autre frère, il est comme tous les pharisiens,
ouais.
C'est quelqu'un de devoir, mais pas avec la bonne motivation.
Ouais. D'ailleurs, l'attitude du fils cadet. Quand le fils cadet y revient, le texte le précise. Hein. Qu'est-ce qu'il attend du Père ? Est-ce qu'il attend ça du Père ? Il attend la nourriture. Le texte dit quelque chose d'autre. Comme un serviteur. En fait, le fils cadet, il a compris qu'il a tout perdu. Son héritage, il l'a bouffé. Et ce qu'il attend, c'est juste que le Père le reprenne comme un serviteur. Le Père, ce n'est pas ce qu'il fait. Le Père, il n'attend même pas la fin du discours de son fils. Il le rétablit en tant que fils. Et ça, c'est la grâce de Dieu, du coup, qui touche les pécheurs. Et tous les pécheurs que nous sommes. Est-ce que ça va ? Oui, Samuel.
Les faits tels qu'on les narre, on n'a aucune preuve que le Fils, tel qu'il a été restauré, ne va pas retomber dans le péché. On n'a pas vu un père qui a profité pour instaurer son autorité ou pour lui donner une chance. Et si je prends aujourd'hui dans la vie pratique, si on prend un chrétien, et qui servait dans l'église et qui entre-temps a péché, a quitté l'église, il est revenu. Je suis sûr que dès le premier jour de son arrivée, on ne peut plus lui donner des responsabilités. On le laisse pendant un temps, on l'observe, on l'accompagne. Ici, on ne voit pas l'accompagnement. Lucas a été un peu très bref dans son histoire. Qu'est-ce qui rassure ici que le fils cadet ne tombera pas une fois encore quelques années plus tard dans le même péché?
Et c'est une très juste remarque, et là c'est bien ce que tu touches à deux sujets, qui est le salut, dont ce texte parle, et aussi l'ecclésiologie, c'est-à-dire la théologie de l'Église. Et effectivement Samuel, tu as raison, la grâce de Dieu, elle doit déborder identiquement dans nos églises. Maintenant, dans la part de l'Église, il y a aussi les points de vigilance, hein, c'est-à-dire que, parce que là il est question du salut. Dans le salut, la grâce doit déborder à 100%. Maintenant, il faut forcément, je prends un exemple assez pratique. Dans notre église, c'est le cas, mais dans beaucoup d'églises, c'est le cas. Imaginons quelqu'un qui, du coup, a un passé, comme le fils cadet, addiction à l'alcool, par exemple. On pourra dire la grâce coule, il est rétabli, mais on va prendre en compte le fait que cet homme-là ou cette femme-là, du coup, il y a une fragilité quelque part. On peut dire ce que l'on veut, et c'est ne pas être assez sage de ne pas prendre cela. Ou, et ça, j'ai déjà connu, des chrétiens qui ont une ancienne vie, des fois de criminels, et du coup, il ne s'agit pas de regarder le passé. Mais dans notre Église, c'est le cas. Ceux qui veulent servir aux enfants, on demande le casier judiciaire. Est-ce que c'est mauvais ? Pas du tout. Parce que du coup, il s'agit de travailler avec les enfants. Et pourtant, on peut être chrétien, et ça n'empêche pas, mais il ne s'agit pas de tenter le diable. Parce que le péché, il peut être mortel. Il y a une phrase, c'est Jésus qui va dire de ne pas soupçonner le mal, mais de ne pas être naïf. Parce que le mal est là. Et du coup, tu vois, dans le salut, ce que tu dis, tu as raison, on doit faire preuve de grâce, comme Dieu fait grâce avec nous, de manière illimitée, tout en étant sage. Parce que si on n'est pas sage, on peut entraîner du coup le prochain à la suite. Tu as raison dans cette histoire, le fils cadet, il peut retomber. Il peut retomber, il peut même redemander sa part d'héritage encore une fois et refaire. Mais on ne sait pas, ce n'est pas le sens de cette parabole en tout cas, mais le père en tout cas ici, il ne prend aucune précaution. Pourquoi ? Parce que dans le salut quelque part, ce n'est pas un mérite que l'on a. Ici c'est l'attitude du père, c'est la grâce de Dieu qui déborde. Et cette grâce de Dieu, du coup, elle est inépuisable. Et le Père, ici, n'est pas dans le calcul. Il a de l'amour à donner. Ce qu'il veut, c'est rétablir cette relation entre Père et Fils. Et c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau.
Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure au pas de foi, c'est dans le texte, on voit qu'il avance, donc on sait qu'il a l'intention de rentrer à la maison, mais... ça explique un peu aussi l'amour du père, parce que il a déjà l'intention, donc il fait avec le pas de foi d'aller, mais on voit que il est déjà loin de la maison, mais c'est le père qui court vers lui.
Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Effectivement, le texte le relève bien. Le père ici va à la rencontre. Il se soucie pas des vêtements sales du fils cadet. Il l'embrasse parce qu'il voit le fils qui revient. Tu as raison. Tu as complètement raison dessus. Et puis, dernière question, question 4. Alors, attendez, c'était quoi la question 4 ? Que révèlent les paroles du frère aîné sur sa manière de voir son père et son frère ? Qu'est-ce que le texte dit ? Là, il faut citer le texte. Qu'est-ce que le père... Comment le frère aîné, du coup, il parle au père et il parle au frère ? Il parle en tout cas du frère. Ouais, qu'est-ce qu'il dit exactement ? Le texte, qu'est-ce qu'il dit le texte ?
En gros, il ne comprend pas, il dit « Pourquoi moi, tu m'as accepté comme j'étais et ton second enfant, en fait, tu l'accueilles à bras ouverts, en fait ?» Il ne comprend pas pourquoi il sort un agneau gras alors que lui, il n'a même pas bénéficié d'un bœuf, sauf que lui, il avait déjà tout, en fait. Lui, il avait déjà tout, mais il ne comprenait pas pourquoi le papa, il va lui donner ça alors qu'il était déjà parti avec une part d'héritage, en fait. Voilà.
Et du coup, comment on peut considérer la relation qu'il a avec son père, le frère aîné ? Que le fils cadet ? Ouais. Autre chose ? De la jalousie. Qu'est-ce que le texte dit ? Je voudrais que vous me citiez le texte. Qu'est-ce que le texte dit ? Comment le fils s'adresse au père ?
En fait, lui, dans une relation, je fais des choses pour toi, je te sers pendant des années, donc c'est moi le vrai fils, en fait, qui est obéissant, donc il met en avant ses œuvres.
Ouais.
Son mérite, voilà.
Le fils aîné, par rapport au père, c'est ce qu'il va dire hein, au verset. « Voilà tant d'années que je te sers sans jamais te transgresser, et tu ne m'as jamais donné un chevreau. » Et quelque part, il ne se voit pas comme un fils, mais comme un esclave, comme un salarié du père. Et sa relation, du coup, elle est basée, comme dit Kerving, sur la performance, le mérite, la loi, la revendication. Ce n'est pas une relation de père-fils que l'on a là. C'est une relation de salarié à employeur. Et par rapport au frère, à son autre frère, comment il parle au frère ? Qu'est-ce que le texte dit ? Il fait des reproches plus que ça. Des reproches, ça peut arriver entre frères et sœurs. Ouais, alors plus... Ouais, c'est...
il est en rupture avec son frère, il dit « ton fils », il ne dit pas « mon frère », donc déjà il y a un rejet.
Exactement le verset, le passage, qu'est-ce qu'il dit le passage ? Quel est le regard qu'il porte sur son frère ? Est-ce que c'est un regard d'amour ? Est-ce que c'est un regard fraternel ? Il juge, ouais, qu'est-ce qu'il dit du coup exactement, Fred ?
Qui a mangé ton bien avec des prostituées, déjà dans le livre, c'est pour lui que tu as tué le beau bras. Peut-être qu'il n'est pas par rapport à son père, parce que son père ne se réjouit pas de son retour.
Ouais. En fait, il veut juste par rapport à... Sur ta version, c'est quoi exactement le...
Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Ouais. Et le père lui dit... Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Donc il juge son frère, il n'a pas de compassion pour son frère, il pourrait dire je suis heureux de te revoir. Et il s'est pas inquiété en fait pour son frère. Et mais il y a de la jalousie parce que lui il a dilapidé son héritage et que son frère il a sa part d'héritage qui est là. Et il pense qu'à lui, en fait, son frère a ses biens, à ce qu'il a. Mais son père lui dit qu'il a toujours eu toujours ce qu'il a voulu. C'est-à-dire le frère a toujours été bien traité, il a toujours manqué de rien et il ne se rend pas compte de la grâce qu'il avait, de ce qu'il avait avant. Mais bon, après, c'est de la jalousie. Ça, humainement, ça peut se comprendre. Si on se met à sa place, c'est que... Et qu'on part, on vit notre belle vie, on dilapide l'héritage, qu'on revient, voilà. Donc, bon, il y a un peu de jalousie vis-à-vis de son frère.
Oui, je trouve que ses reproches sont relativement légitimes. Mais moi, ce qui me choque, c'est le début du verset 30. Et quand ton fils est arrivé. C'est pas quand mon frère est arrivé, c'est ton fils est arrivé, t'as tué le veau gras, et c'est des reproches relativement légitimes, relativement, hein. Pour lui, il doit prendre ça comme une injustice et autres, mais voilà.
D'abord, il dit, il s'est mis en colère. Son système de valeurs a été renversé.
Le fils, et il accuse son père d'être injuste. Et ça, c'est grave. Hein, c'est, pour répondre à la question, d'être injuste, c'est-à-dire qu'il ne donne pas la même chose à l'un et à l'autre. Eh bien, non, parce qu'on a tous la grâce, on a tous chacun. Mais... Ah bah oui, humainement, c'est certes.
C'est relativement légitime.
Oui, c'est relativement légitime, humainement.
Parce que là, on connaît l'histoire, mais en fait, la position du fils aîné, moi, je la comprends. Je suis à sa place, mais peut-être que j'aurais réagi pareil. Il y a mon fils qui vient, le frère qui vient de faire n'importe quoi, lui, il revient, on fait la fête. Et en plus, ce que je disais dans un groupe, hein, le festin qui est accordé après, c'est sur la part d'héritage de qui, là, qu'on fait la fête ? Bah, du fils aîné qui est dans les champs, qui travaille, là. Et là, je me mets dans la place du fils aîné. Hein. Dans la place du fils aîné. Ça turlupine, ça veut dire que le père, en plus, la moitié de ce qui arrive, qui est à la maison, maintenant, tout ce qui est à la maison, maintenant, du coup, doit revenir au fils aîné, le fils qui reste. Peut-être le minimum syndical, c'est que le père, il demande au fils, est-ce que c'est possible ? Le fils aîné, en tout cas, peut penser comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Là, je me mets à la place du fils aîné. Mais effectivement, t'as raison, Alice. Les deux fils oublient une chose, c'est que le propriétaire, ça reste le père. Le père est vivant, le père fait ce qu'il veut. Ce n'est pas à chacun de pouvoir demander sa part. Même si le fils cadet l'a fait, en fait, le fils aîné, il est dans la même mentalité. Il ne va pas voir les prostituées, il ne va pas voir n'importe quoi, mais c'est exactement la même mentalité. C'est que du coup, il considère le père comme une opportunité. Et du coup, c'est pour ça qu'il est jaloux. Par rapport à son frère, il y a un terme grec qui est dans le texte, c'est quand ce fils, alors c'est traduit comme ça dans la version Summer que j'ai, quand ce fils-là est arrivé.
La colère qu'il a, ouais. En fait, il espérait peut-être que lui, ouais. Il est de devoir, que tout ce qui restait au père lui revenait.
Ouais.
Et en fait, il est en colère.
Ouais, tout à fait. Ouais. Du coup, ici, le frère, il regarde son autre frère avec mépris, peut-être une supériorité morale. Il se dit, le deuxième frère, il a fait n'importe quoi, moi, je suis peut-être mieux. Moi, je suis resté à la maison. Et pourtant, du coup, il y a de l'amertume. En fait, plus que de la jalousie, il y a de l'amertume. Il est jaloux qu'un coupable reçoive gratuitement ce que lui pense avoir gagné à la sueur de son front. Parce que toute la question, elle est là dans cette histoire. Il ne comprend pas la joie du père. Il voit la grâce faite au cadet comme une injustice. Et quelque part, son attitude montre qu'il est aussi loin du cœur du père, mais différemment. Non par une rébellion visible comme le fils cadet, mais par orgueil religieux et comparaison. Est-ce que ça va ? Donc voilà un petit peu les réponses. Le regard sur le père, c'est un cœur quelque part d'esclave qu'il a, le fils aîné. Je te sers sans jamais désobéir. Il fonctionne au contrat, pas à l'amour. Et le regard sur le frère, ce fils-là, il y a du mépris. Puisque du coup, ça vient ici atteindre lui à ses propres intérêts. Le constat, c'est qu'on peut être physiquement dans la maison, mais spirituellement à des kilomètres du père. Ce qui est pratique avec le fils cadet, c'est qu'on sait qu'il est perdu parce qu'il part loin, faire n'importe quoi. Mais Jésus, il rappelle ici une chose, c'est qu'on peut être aussi très perdu et être à l'église. Se croire auprès de Dieu et en fait vivre à des kilomètres de quelque part ce que Dieu veut pour nous. Alors j'essaie de synthétiser du coup sur un tableau avec les trois attitudes, fils cadet, le père et le frère aîné. Le fils cadet va s'éloigner, le frère aîné il reste prêt, le père il va attendre, le fils cadet il va gaspiller, le père il court, texte précis, hein, il court à la rencontre. Et le frère aîné il refuse d'entrer. Le fils cadet revient, le père pardonne, le frère aîné lui se met en colère et le fils cadet se repent, du coup le père le restaure. Et le frère aîné, lui, pense mériter. Est-ce que ça va ? Allez, deux dernières questions, du coup. Ça sera un peu pour synthétiser tout ça. Peut-être une question intermédiaire. Ouais, il y avait la question intermédiaire. La question intermédiaire, c'est que, quelque part, je disais tout à l'heure au début, dans l'histoire de l'Église, cette histoire, elle s'appelait la parabole des deux fils. Dans les manuscrits que l'on a, le titre de cette parabole, c'est la parabole des deux fils. Ça a été transformé, et transformé en focalisant sur le fils cadet, puisqu'on appelle couramment cette parabole la parabole du fils prodigue, à tort. Puisque ici, c'est pas la parole du fils prodigue, même si le fils prodigue, il a quelque chose d'intéressant hein, dans le salut et tout ça, mais c'est pas la parabole des deux fils. Et pourquoi, du coup, à votre avis, au fil des siècles, on a fini par l'appeler presque uniquement la parabole du fils prodigue. Pourquoi il y a eu un glissement, à votre avis ? Pourquoi on s'est mis à focaliser uniquement sur le cadet en oubliant l'aîné ? Est-ce que vous avez une idée ? Attends, Jean-Marie.
La première partie, elle est très intéressante. C'est le retour d'un pêcheur... Mais par contre, la deuxième partie, elle est beaucoup moins intéressante, moins enthousiaste, parce que enfin, quand j'ai lu aussi ça me concerne, quoi. Enfin, ça nous concerne, quoi. Donc, c'est ça qui fait qu'on préfère donner, dans l'ensemble, ça c'est le problème de l'être humain, c'est qu'on préfère donner des bonnes choses, mais après les autres derrière qui nous interpellent, qui nous font se reposer des questions à nous-mêmes, c'est déjà un petit peu moins intéressant.
Tout à fait, tu as tout à fait raison. Autre chose, oui, Laïna ?
Parce que c'est beaucoup plus facile de parler à ceux qui sont dehors, qui sont pas sauvés, au lieu de se reprendre nous-mêmes.
Tout à fait.
Le Seigneur, il est là pour guérir ceux qui se sentent malades, ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades. Tandis que ceux qui ne sont pas malades, enfin, ou qui ne se considèrent pas comme ça, ils ne vont pas aller demander d'être guéris.
Tout à fait. En fait, pourquoi ça a glissé ? L'explication, c'est comme Jean-Marie l'a très bien dit. Hein. Le péché du cadet, il se voit tout de suite. Il va voir les prostituées. Tout de suite, on peut dire, ce qu'il fait, c'est pas bien. Parce que son péché, il est spectaculaire, c'est l'argent, l'amour de l'argent, l'amour de la fête, l'amour de la débauche. Mais le péché du grand frère, lui, il est invisible. Il est discret et surtout, il est mieux vu dans la société que le fils cadet. Dans la société et même dans notre église. Mes frères et sœurs, si devant vous, on ramène, allez, je vais prendre dans le texte, une prostituée ou un homosexuel et quelqu'un qui ment, moi, je ne mettrai pas ma main à couper hein, en disant « Est-ce que vous considérez les deux de la même manière ?» Non. Certains, je pense, qu'ils vont plus juger le péché visible que celui qui ment ou qui a une attitude religieuse, mais qui, au fond de son cœur, est tout aussi perdu. Et c'est pour cela qu'au fil des siècles, les chrétiens, parce que c'est les chrétiens catholiques comme protestants, ça a commencé par les catholiques, parce qu'il y avait des catholiques avant, l'Église catholique s'est sentie jugée. Parce que, bien sûr, ça concerne le religieux. Mais les protestants ne sont pas de sorte, puisque en fait, les réformateurs, au début, ils ont ressorti le titre, la parabole des deux fils, il a fallu 30 ans après la réforme pour qu'ils reviennent à l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, la parabole des deux fils produit. Pourquoi ? Parce que le religieux, il n'aime pas se faire remettre en question par Jésus. Et cette parabole, elle remet en question pas celui qui est perdu, qui fait n'importe quoi, elle remet en question la religiosité. Celui qui est bien, sous toute couture, et qui pourtant, au fond de son cœur, est tout aussi perdu que le fils cadet. Et c'est pour ça qu'au fil des siècles, on a un peu changé le titre, et c'est pas un titre du coup qui est présent dans la Bible, hein. C'est dans vos Bibles, si vous voyez, les titres sont rajoutés, en fait. Mais du coup, on l'a changé pour moins nous sentir mal par rapport à nous-mêmes, parce que ça nous parle. Et ça nous dérange beaucoup plus. Et à toutes les époques de l'histoire, les églises ont eu du mal à parler du grand frère, tout simplement parce qu'il ressemble au chrétien modèle. Entre guillemets. Qu'est-ce que j'entends par là? Le piège qui nous guette tous quand on s'installe dans la routine de la foi, c'est que notre vie chrétienne se résume à une liste de bonnes actions. On coche la case de la présence, du service, de la lecture de la Bible, on évite les gros péchés. Et vu de l'extérieur, tout a l'air parfait. Mais on ne se méfie pas de ce glissement, qui pourtant, au fond, commence à confondre notre performance religieuse avec une relation d'amour. Et mes frères et sœurs, dans ce texte, le frère aîné, le texte ne le dit pas, hein. Mais moi je pense qu'il se croit meilleur que le fils cadet. Il pense qu'il est meilleur que le fils cadet. Comme les pharisiens de l'époque. Les pharisiens de l'époque se croient meilleurs que le reste du peuple. Pourtant Jésus, comment il va les appeler? Race de vipère, fils de Satan. Pourtant les pharisiens, ils connaissent tout très bien. Mais ils sont tombés progressivement dans... Ici, il y a un manque d'amour, quelque part, un manque de relation avec le Père. Dans l'histoire de l'Église, du coup, ça s'est traduit malheureusement comme ça, parce que c'est tellement plus confortable de viser le cadet, ça nous permet de ne jamais se remettre en question, de se dire, lui, son péché, il est plus gros que le mien, donc bon, ça va, quoi. Si Dieu l'a pardonné, moi, franchement, Dieu me pardonnera sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et quelque part, alors on a raison sur une chose, parce que les péchés ont des conséquences différentes. Hein. Je prends, il y a un casino à côté, si vous allez vous endetter au casino, que vous donnez votre vie à Dieu ou pas, les dettes elles sont là, hein. Sauf si Dieu vous fait vraiment grâce, c'est possible. Hein. Mais les dettes elles restent, et donc c'est pas les mêmes conséquences. Mais aux yeux de Dieu, le péché c'est le péché. Il n'y a pas de plus terrible péché quelque part que de ne pas renouer cette relation ici à Dieu. Quelque part le fils aîné, qu'est-ce qu'il pense? Il dit lui il est pire que moi. En oubliant quelque part que lui-même a besoin de cette relation continuelle avec son père qu'il a perdu. Est-ce que ça va? Voilà, j'insiste aussi parce que du coup, c'est et en creusant, moi, je l'ai découvert aussi, hein, puisque finalement, on appelle cette parabole, même c'est ce qu'on a appris à l'école le dimanche, la parabole du fils prodigue, alors que bon, c'est volontairement ou involontairement, c'est un faux titre. C'est la parabole des deux fils. Dans cette histoire-là, c'est pas que le fils aîné, c'est les deux fils qui ont un problème. Et ce qui est visé par Jésus, c'est le fils aîné. Parce qu'il s'adresse aux pharisiens. Il s'adresse pas à quelqu'un qui est en débauche, la femme adultère, il s'adresse à des religieux. Et c'est eux qu'il vise. Est-ce que ça va? Les deux dernières questions, du coup, ça permet de synthétiser. Pourquoi s'est-on mis à focaliser? Alors ça, c'est ce que on vient de répondre. Que révèle la réponse du père au frère aîné? Pourquoi insiste-t-il autant pour qu'il entre dans la fête? Et puis après, il y aura la dernière question, mais il y a déjà celle-là. que révèle la réponse du père au frère aîné. Et pourquoi il insiste. Allez, je vous laisse peut-être 5 minutes. Voilà, je vous propose de passer peut-être à la dernière question. Question de synthèse. Puis on répondra après aux deux ensuite. La sixième question, c'est comment se termine l'histoire pour le grand frère et qu'est-ce que Jésus veut apprendre aux chefs religieux et à nous aujourd'hui ? Question concrète. Donc il y a deux questions. Comment se termine l'histoire pour le grand frère et qu'est-ce que Jésus veut nous apprendre ? Il veut apprendre aux chefs religieux déjà, dans le texte, et à nous. Voilà, je vous laisse répondre et puis on fait la synthèse après. Voilà, je vous propose de faire un point du coup. Voilà, on arrive sur la question 5. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Que révèle la réponse du père au frère aîné ? Pourquoi il insiste autant pour que le frère aîné rentre dans la fête ? Qu'est-ce que vous avez répondu ? Oui ? Fred, ou quelqu'un d'autre peut-être ? Quelqu'un d'autre qui n'a pas beaucoup parlé ?
Mais la parole nous dit que finalement les deux fils sont aussi à côté de la plaque, l'un comme l'autre, pas dans la même direction. Et la parole ne nous donne pas le résultat des courses, qu'est-ce qu'il est arrivé avec le frère aîné ? Parce que la question est toujours là, qu'est-ce que t'en fais ?
Qu'est-ce que dit le père ? Réjouis-toi, ouais.
Alors, au départ, on voit aussi que son père, il sort et à un moment donné, il le pria d'entrer aussi pour que son fils aîné, pour qu'il se réjouisse également. Donc, il insiste pour que son fils aîné se réjouisse du retour de son frère. Mais son frère, on ne sait pas en fait s'il se réjouit. Même jusqu'à la fin, on ne sait pas s'il va se réjouir. Et le père, à un moment donné, dit, quand ton fils est arrivé. Et le père, il va répondre un peu à la fin, mon enfant, lui dit le père. C'est-à-dire qu'il met les deux enfants sur le même pied d'égalité. Il ne fait pas de différence. Et il montre bien que les deux sont, c'est leur fils, malgré ce qu'il a autant d'amour pour ses deux enfants. Et après, il dit, mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, donc il dit bien, vous êtes tous les deux mes fils. Et là, il les met sur les mêmes pieds d'égalité et il les restaure. Ils sont tous les deux restaurés. En fait, il n'y a pas de préférence. Et je trouve que les deux mots sont importants. Mon enfant, ton frère. Donc, c'est vraiment, il veut montrer à son fils qu'il l'aime autant que son frère cadet. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Bah, c'est parfait, Fred. On voit que Fred a fait que le dimanche. Hein. C'est parfait.
Dans notre groupe, on a parlé de réconciliation. Je pense que le père veut aussi la réconciliation avec son frère, mais aussi la réconciliation avec son père. C'est aussi, voilà.
Tout à fait, il y a les deux choses, et puis Fred a bien résumé. Du coup, il y a les deux choses. Le père, lui, il rappelle que c'est son enfant, mon enfant. Et quelque part, il insiste. C'est bien parce qu'il aime l'aîné comme le cadet de la même manière. Il n'y a pas de préférence. Alors qu'à la fête, il voit que l'aîné n'est pas bien, il va lui parler et il lui rappelle quelque part que lui aussi peut profiter. Et puis, il rappelle, comme tu disais, vous avez tous les deux, que c'est son frère. Que ce n'est pas le frère là, ton fils là, et qu'ils ont un lien tous les deux. Oui.
Il y a peut-être un double message, c'est que entre les Juifs qui se croyaient être le fils élu, le fils aîné, et les non-juifs, et là le père qui dit, bah, toi aussi tu rentres, en fait, mais tu rentres comme, ouais, comme le fils perdu.
Ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est juste, alors après, alors j'ai pas creusé là, je t'avoue, là tu me sors de mon chemin, peut-être que c'est vrai, je sais pas, hein, j'ai pas envie de faire de bêtises, donc peut-être que, ouais, effectivement, ça a l'air de bien tenir ce que tu veux. Après, j'ai envie de focaliser sur le, parce que le texte, il parle aux pharisiens. Tu vois, c'est pas les juifs en général. Hein. C'est les pharisiens, puisque dans le peuple juif de l'époque, il y en a certains qui sont très bien. D'ailleurs, la preuve, c'est que les 12, ils sont juifs. Hein. Donc, et que du coup, tu vois, c'est un état de cœur, en fait, là, plutôt qu'autre chose. Après, ce que tu dis, il faudrait que je creuse, voir si... Mais ce qui est sûr, c'est que ici, Jésus s'adresse aux pharisiens. Je pense que c'est important de focaliser dessus, parce qu'on a longtemps, durant l'histoire de l'Église, essayé de diluer l'histoire, pour ne pas nous sentir repris par le Seigneur. Et c'est important de garder le cap qu'il s'adresse aux pharisiens, il s'adresse ici aux religieux. Et dernière question, comment se termine l'histoire pour le grand frère ? Marlène a un peu dit, du coup on n'a pas la fin de l'histoire. Alors cinquième question, voilà, j'ai mis ça, il y a le même amour, c'est ce que Fred rappelait, il y a le rappel, tout ce que j'ai est à toi, et l'invitation, il y a une invitation du père, au fils aîné de rentrer dans la fête. Et sixième question, comment se termine l'histoire pour le grand frère ? Marlène vient de dire que du coup, on ne sait pas. À votre avis, pourquoi ? Pourquoi Jésus fait ça ? Parce que c'est une parabole, c'est une histoire qu'il invente. Pourquoi il ne donne pas la fin de l'histoire ? Est-ce qu'il était fatigué ? Il a dit, on va les manger, on finira après, il a oublié de finir ? Ouais.
Parce qu'il invite aussi les pharisiens à se réjouir et donc ils ont aussi le choix.
Quelque part, en fait, ce qui se passe, c'est que la fin de l'histoire, il veut la laisser aux pharisiens. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que l'invitation du Père, vous allez l'accepter ou pas ? Jésus ne cite pas une histoire pour citer des histoires. L'histoire, c'est pour inviter les pharisiens, quelque part, à se remettre en question. En général, une parabole, quand Jésus utilise une parabole, c'est que la leçon derrière, elle est dure. Et du coup, mais dans la société, on fait pareil. Quand la leçon est dure à apprendre, on passe par des illustrations. On passe par des images. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire, c'est Nathan. Le prophète Nathan qui va trouver le roi David qui a tué et commis l'adultère. Qu'est-ce qu'il fait le prophète Nathan ? Il lui dit pas, t'as commis l'adultère, t'es un meurtrier. Il lui raconte une parabole. Avec un propriétaire, deux propriétaires, quelqu'un qui vient voler. Et ça fait réagir le roi David. Qui, là, on a la réponse, réagit bien. Et le prophète Nathan qui va lui dire, c'est toi. Dans cette histoire, on n'a pas la fin. Parce que la fin, Jésus veut laisser les pharisiens, mais aussi nous, mais les pharisiens ils sont morts aujourd'hui, hein, mais aussi nous, aujourd'hui, en juillet 2026, chrétiens de Saumur, potentiels pharisiens en puissance que nous sommes, je ne dis pas qu'on est tous ici, hein, mais c'est pour nous que ça s'adresse, est-ce que quelque part, nous sommes des fils aînés ? Le fils aîné ne se rend pas forcément compte de sa position. Et quelque part, du coup, est-ce que quelque part, je réponds quelque part à cette relation de Dieu vis-à-vis de moi ? Ou est-ce que ma relation à Dieu, elle se limite juste par intérêt, quand je suis en galère, quand j'ai besoin d'intérêt de la part du Seigneur, comme le fils aîné ? Ou est-ce que c'est une vraie relation père-fils que nous avons avec le Seigneur ? Alors, pour synthétiser, puis on va conclure. Dans cette histoire, quelque part, il y a deux manières de se perdre. On vient de dire, il n'y a pas de fin. Jésus s'arrête net, il laisse à l'auditeur d'écrire la suite, à chacun de nous. Et il y a deux manières d'être perdu. La première, on le connaît tous, c'est loin de la maison, par la rébellion, c'est le fils cadet. Ça, on est tous d'accord. C'est celui qui vit une vie de débauche. Et c'est grave, hein. Cette histoire ne minimise pas le fils cadet. Ce que le fils cadet, c'est grave, il est perdu. Mais il y a une autre manière d'être perdu, tout aussi grave, peut-être même plus pernicieuse parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est d'être devant la porte par l'orgueil religieux. L'aîné. Être quelque part ce fils aîné qui s'est perdu tout en faisant le bien, mais avec un cœur quelque part qui n'est plus là où il faut. Le grand frère, il a l'air d'un fils modèle, mais au fond, il est tout aussi éloigné du cœur du père. Et son piège à lui, c'est de croire qu'il est meilleur que les autres parce que d'apparence, il a l'air bien. Alors, en préparant ça, j'ai eu une histoire qui m'est revenue. Quand je travaillais à La Défense, du coup à Paris, en face, en bas, il y avait un... Voilà, les bureaux étaient en bas, là, et en face, il y avait un kebab. Avec toutes les odeurs de frites, voilà, de friture. Et l'été, généralement, on ouvrait tout, et donc, voilà. Et on voyait des fois les gars qui travaillaient, c'est les Turcs, et à la fin de la journée, ils étaient tout sales, les gars. Il y avait de l'huile, il y avait, voilà. Et on se disait, je me rappelle, ah purée, eux, il va falloir qu'ils prennent des douches tous les jours. Mais c'est normal, hein, c'était leur métier. Et un jour, en rentrant, je rentrais du coup à la maison, le week-end, et ma mère, elle m'accueille, elle me dit, toi, tu sens la friture, toi. Et moi, je me suis pas rendu compte que je sentais la friture. Parce qu'on était en face du kebab, et que les odeurs, elles imprègnent les vêtements. Pourtant, j'étais en costume, hein, j'étais bien habillé. D'apparence, personne ne pouvait dire, lui, il est sale. Peut-être dans le train que j'ai pris, certains ont dû se dire, lui, il sent quelque chose qui n'est pas normal. Il sent le kebab, il sent quelque... Alors que j'ai rien mangé, moi, j'ai rien fait. Comme le fils aîné. Tout bien en apparence, alors que c'est pareil que l'autre. C'est juste que l'autre, en apparence, bah, il a le tablier, la blouse tachée d'huile, il sent. Mais il sent pareil que moi, peut-être. Et moi, j'ai l'impression que tout va bien. Je dis même, on juge même l'autre. Alors, c'est gentil, hein, c'était pas méchant. Bah, lui, il est sale, alors que moi, je sens pareil. Et dans le train où j'allais, on sent pas son odeur, hein, en général. Hein. En France, heureusement, les gens, ils sont plutôt polis. Ils disent pas, toi, tu sens la friture. Ma mère, quand je suis arrivé, elle m'a embrassé, elle m'a dit, non, attends, toi, tu sens la friture, va te changer. Direct, elle me l'a dit. Et ça m'a fait sourire, parce que dans la journée même, avec mes collègues, on est en train de se dire, ah, c'est dur ce qu'ils font. Ils sont courageux avec la chaleur, avec les odeurs. Nous, on a de la chance. Et je l'avais raconté à mes collègues en début de semaine. J'ai dit, mais en fait, on est pareil. Quand on ouvre les fenêtres, on a la même odeur qu'eux. Et on reçoit des clients, on reçoit tout ça. C'est même peut-être pire, du coup. Parce que eux, ils sont dans le contexte. Nous, on l'est pas. On est bien habillés, on va recevoir un client avec la friture du kebab. C'est quoi cette histoire? Et ça m'a fait penser à cette histoire. Bien souvent, les grands frères que nous sommes, on réalise pas que nous sentons la friture, que quelque part nous sentons l'odeur du porc, comme le fils cadet. Alors que l'attitude est la même. Quelque part, nous sommes ici perdus. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est Luther. Luther, c'est un réformateur. C'est peut-être une des citations favorites qui résume un peu la foi chrétienne. Luther, il va dire ceci, si je n'arrive pas à retrouver... Il va dire ceci, voilà, toujours juste, toujours pécheur, toujours repentant. Il commence par le côté juste. Nous sommes toujours justes auprès aux yeux de Dieu, mais aussi toujours pécheur, toujours repentant. Si je tiens debout, c'est par la grâce du Christ. Cette phrase-là, Luther, il va le dire, elle est valable pour le chrétien qui vient de donner sa vie à Dieu, comme pour le chrétien qui a 50 ans de conversion, 30 ans. Mais ça sera plus dur pour le chrétien qui a 30 ans de conversion. C'est Luther, hein. De dire amen à cette phrase sans réaliser lui-même qu'il est vraiment encore en repentant, encore en cheminement. Et c'est le commentaire que Luther va faire par rapport à cette parabole, parabole des deux fils, où il va dire quelque part le danger, quelque part, du fils aîné, c'est qu'on peut être perdu sans s'en rendre compte. Et c'est terrible puisque du coup c'est l'orgueil qui peut venir ici nous assaillir. Et nous avons besoin du coup continuellement de nous rappeler que ce n'est pas nos mérites qui font que nous sommes sauvés, mais uniquement cette grâce de Dieu qui coule abondamment. Pour vous aider, et puis on va prier ensuite, j'ai mis un test, le test du grand frère. Le test du grand frère, quelque part, c'est est-ce que quelque part, je suis un peu comme le grand frère. Et à ces trois questions, alors j'ai mis ces trois questions, on peut en mettre d'autres, hein. Est-ce que je fonctionne au mérite? Est-ce qu'en tant que chrétien, je fonctionne au mérite? Est-ce que je pense que Dieu me doit quelque chose parce que je vais à l'église ou que je me comporte bien? Est-ce que je critique facilement? Deuxième question, est-ce que j'ai du mal à me réjouir quand quelqu'un qui a un passé lourd ou qui ne fait pas assez d'efforts reçoit les bénédictions de Dieu? Qu'il soit chrétien ou pas d'ailleurs. Est-ce que j'arrive quelque part à me réjouir ou à encourager? Et puis dernière question, est-ce que je râle contre Dieu? Est-ce que je trouve que Dieu est trop gentil avec les autres et pas assez reconnaissant envers mes efforts ou ma vie chrétienne? Moi, je suis fidèle à Dieu, je fais ci, je fais ça. Et du coup, c'est ces trois questions qui nous guettent. Je vais vous dire honnêtement, mes frères et sœurs, moi, des fois, je me dis, purée, mais des fois, je me retrouve dans ces questions, surtout la dernière. Je me dis, je suis pasteur, je sers Dieu, et des fois, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Et Seigneur qui rappelle, attends, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est moi qui t'appelle, et Dieu ne nous doit rien. Nous, nous sommes bénéficiaires de la grâce. Cette grâce ici que Dieu nous accorde. Peut-être pour terminer cette histoire, c'est l'histoire qu'on trouve dans les Apocryphes. Alors là, c'est pas dans la Bible, hein, mais c'est une histoire qui reflète bien cette parabole des deux fils. Je l'avais citée il y a quelques temps en prêchant. J'avais déjà prêché dessus, hein, mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rappelez. On l'avait cité en 2021 en préparant. Je me suis rendu compte qu'on avait fait une prédication, pas en immersion, on n'avait pas creusé. Et du coup, il y a une histoire dans les Apocryphes qui cite Jésus qui est avec ses disciples. Et Jésus avec ses disciples, et il va leur dire à chacun, il va leur demander de porter une pierre. Et du coup, chacun va porter une pierre, et l'apôtre Pierre va choisir une grosse pierre. Et il va commencer à porter la pierre, ils vont chacun porter la pierre durant la journée, et à la fin de la journée, Jésus va leur dire du coup de jeter la pierre dans un fossé. Et du coup, l'apôtre Pierre, il comprend pas. Il dit, mais du coup, pourquoi tu nous dis de porter une pierre pour la jeter après? Et Jésus le rappelle, moi, je vous ai pas demandé le pourquoi, je vous dis de porter. Le pourquoi du comment, c'est moi qui vous demande. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Quelque part, pour nous, c'est retrouver cette dépendance à Dieu. Pas être comme le fils aîné, demander notre part et négocier avec Dieu, mais dire, Seigneur, moi, je te suis. Quoi que tu me demandes, je le fais parce que tu me le demandes. Et parce que j'ai cette relation de père et fils, parce que tu m'as sauvé. Même si je n'ai pas été comme ce fils cadet, tu m'as sauvé ici par la grâce. Est-ce que ça va? Alors pour synthétiser, et puis si vous avez des questions après, on pourra y répondre. Voilà, on peut être perdu loin de la maison comme le cadet, ou à l'intérieur de la maison comme l'aîné, en confondant la performance religieuse avec l'amour. Le Père sort à la rencontre de ses deux fils, mais l'histoire reste ouverte. Est-ce que nous acceptons de lâcher quelque part notre orgueil, hein, que nous avons tous, pour entrer dans la fête et partager la joie face à ceux qui reviennent? De l'extérieur, comme le fils cadet, mais aussi ceux qui sont parmi nous et qui avancent, est-ce que nous avons ce cœur de grâce? Si nous ne l'avons pas, mes frères et sœurs, c'est peut-être nous rappeler que Dieu nous a fait grâce et que du coup, d'avoir ce même cœur, pas ce cœur dur comme le frère aîné, pas être comme ces pharisiens que Jésus va reprendre, avec de l'amour pourtant, trois paraboles que Jésus va citer. Et face à cette question ouverte, finalement, est-ce que moi-même, je ne suis pas un religieux sans le savoir, mais est-ce que je suis vraiment un chrétien comme les premiers jours? Une foi simple, un cœur qui aime. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des remarques? Oui, c'est dur, hein. C'est dur après ce genre de choses. Ben écoutez, je vous propose de prier, et puis on pourra rentrer chez nous ensuite. Merci Père encore, mon Dieu, pour ta parole ce matin que nous avons pu décrypter ensemble, mon Dieu. Merci, mon Dieu, parce que tu nous parles de différentes manières et aussi par ces paraboles qui sont toujours d'actualité, mon Dieu, et viens nous aider. Aujourd'hui, mon Dieu chrétien que nous sommes ici de Saumur, viens nous garder peut-être, mon Dieu, d'être comme ce frère aîné qui pense être meilleur que les autres. Dieu, tu peux voir combien notre orgueil, notre ego, mon Dieu, peut parfois nous jouer des tours. des pièges, mon Dieu, et viens vraiment nous préserver de cela. Donne-nous un cœur simple, mon Dieu, un cœur qui aime comme toi tu aimes, de manière inconditionnelle. Et mon Dieu, que cette grâce qui coule dans nos vies, Jésus, puisse encore se voir. À travers nous, mon Dieu, viens nous garder. Encore, Jésus, du pharisianisme, mon Dieu, du de la religiosité. Et donne-nous encore, Jésus, un cœur malléable à ta parole et à ce que tu es, Jésus. Amen. Amen. Et bien, écoutez, bonne semaine à tous. Et puis, du coup, on se retrouve la semaine prochaine.